Saul de Tarse était parti un jour pour un voyage à Damas. Cet homme était absolument convaincu, mais fermement convaincu de ce qu'il faisait. Il était parti pour arrêter les chrétiens qui étaient à Damas, pour les faire enfermer, pour les faire exécuter. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela, il avait, si on peut dire, l'habitude de persécuter les premiers croyants. Il était parti escorter avec des soldats, avec des gens pour l'accompagner, pour saisir les chrétiens de Damas. Et dans le livre des Actes, au chapitre 22, il nous est raconté comment, sur le chemin de Damas, un petit peu avant d'arriver dans la ville de Damas, il s'est passé quelque chose qui a changé, révolutionné entièrement la vie de celui qu'on appellera plus tard Paul, l'apôtre Paul. Lui-même raconte qu'à un moment particulier, juste avant de rentrer dans la ville, il a vu une immense lumière. Il a été projeté par terre et il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Alors vous imaginez l'émoi de cet homme. Il est là par terre. Il est ébloui par une immense lumière et il entend une voix qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et Saul réagit, il dit « Mais enfin, qui c'est qui me parle ? Qui c'est qui me parle ?» Et la réponse vient « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Imaginez un instant les sentiments qui passent par cet homme. Il est absolument convaincu que ce Jésus de Nazareth est un imposteur et qu'il faut arrêter tous ces fous et ces fanatiques qui sont ses disciples. Et il s'y est employé très énergiquement, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Il en a fait mourir plusieurs, il en a enfermé un grand nombre. Et maintenant, là, par terre, au milieu de ses amis et de ses soldats, il entend Jésus qui lui dit « C'est moi que tu persécutes. Maintenant, arrête. » Toute la vie de cet homme est en train de basculer dans cet instant-là. Il était convaincu, il était sûr de faire ce que Dieu lui demandait. Et tout d'un coup, il découvre qu'il est exactement en train de faire l'inverse de ce qu'il voudrait. Il n'est pas en train de suivre ce que Dieu lui demande, il est en train de lutter contre Dieu et contre ses disciples. Alors, il demande... « Que dois-je faire ?» Et Jésus lui dit « Va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Arrivé à Damas, Paul, Saul, va rencontrer Ananias, un homme pieux de la ville, à qui Dieu va donner une mission particulière, c'est d'aller voir Saul, de le guérir de sa cécité et de le bénir. Ananias, d'ailleurs, a beaucoup de peine parce qu'il a entendu parler de Saul. Il sait ce que Saul fait. Mais Dieu lui dit, « Je l'ai choisi pour porter l'Évangile dans le monde entier. » Et Ananias va rencontrer Saul. Il va prier pour lui. Et il va voir de nouveau. La lumière était si forte. La présence de Jésus était si puissante sur le chemin de Damas, là, lorsqu'il a été jeté par terre. Que Saul avait perdu la vue. Il va d'ailleurs probablement garder toute sa vie des séquelles de cette rencontre particulière avec Jésus sur le chemin de Damas. Ananias va prier pour lui, va confirmer pour lui cet appel que Jésus lui adresse et va bénir Saul. J'ai l'impression qu'il nous arrive à bien des reprises, aux uns et aux autres, de vivre des situations analogues à celles que Saul de Tarse a vécues ce jour-là. Nous sommes convaincus de ce que nous faisons, nous avons l'impression d'être des gens bien, de faire ce qu'il faut et d'être sur le bon chemin. L'apôtre Paul, d'ailleurs, bien plus tard, va expliquer comment il vivait cela. Si vous avez vos Bibles avec vous, lisez avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, De nombreuses années plus tard, il va parler de son expérience personnelle et va l'exprimer d'une façon très claire. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, nous lirons dès le verset 4. Il va présenter là toutes ses lettres de créance, dire à quel point il se sentait un homme bien, un homme parfait. Philippiens, chapitre 3, verset 4, dit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » J'étais un gars impeccable, dit-il. L'hébreu le plus parfait qu'on puisse faire. Circoncis le huitième jour selon la tradition. Hébreu, fils d'hébreu. Et il explique dans d'autres endroits à quel point il était en avance sur les gens de son âge, si bien qu'on lui avait donné des responsabilités particulières pour aller arrêter ses disciples de Jésus. L'homme parfait, le parcours idéal. Et pourtant, malgré la perfection de son pédigré, Saul combattait contre Jésus. Il ne le savait pas. Il n'était pas dans le chemin qu'il pensait suivre. Il se croyait impeccable, irréprochable. Il pensait que tout allait bien. Jésus va parler aussi de cette situation difficile à imaginer dans une parabole que vous connaissez bien et qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Évangile selon Luc, chapitre 18, nous lirons à partir du verset 11. Jésus présente cette parabole du pharisien et du publicain, deux hommes bien différents qui viennent tous les deux à l'église. Et Jésus, dans cette parabole, va mettre les paroles suivantes dans la bouche du pharisien. Vous connaissez cette parabole? Suivez avec moi à partir du verset 11, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Jésus reprend dans cette parabole le même problème que celui qu'avait l'apôtre Paul. Ce publicain qui vient ne sait pas comment se présenter devant Dieu. Mais le pharisien vient dire « Seigneur, heureusement que je suis le plus correct de tous les hommes. Je te remercie de ce que je suis dans la bonne voie. Je fais d'ailleurs tout ce qu'il faut pour l'être. Je fais ci, je fais ça, je fais ceci, je fais cela. T'es content avec moi, n'est-ce pas ? Persuadé, convaincu d'être dans la bonne voie parce qu'il a fait ceci et fait cela et fait ceci encore. Et je crains que cette attitude soit justement l'attitude de beaucoup de nos contemporains qui ont peut-être une compréhension des Écritures qui est tout à fait minimum, mais qui se disent finalement, je ne fais de mal à personne, je fais du bien quand je peux, je suis fidèle à ma femme. Je n'ai pas d'ennemis, je donne aux pauvres quand ça se présente, je suis gentil avec mes voisins, j'élève bien mes enfants. Qu'est-ce qu'on veut me demander de plus ? Je suis correct, je suis un gars bien. Et dans ce sens-là, je n'ai pas vraiment besoin ni de Dieu, ni de la religion, ni de tout ça. Cette idée, d'ailleurs, s'est développée parce qu'en réalité, dans notre civilisation, c'est ainsi que les choses se vivent. Tout s'achète, tout se mérite, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Je prends un exemple ou deux tout simple. Imaginez, vous avez un nouveau travail et vous allez dans votre usine pour ce premier jour de travail. Vous avez un nouveau poste. Et avant d'aller à votre poste de travail, vous allez direct au bureau du patron, vous vous asseyez, « Bonjour monsieur, je suis content de commencer à travailler chez vous aujourd'hui. Je voudrais que vous me donniez mon premier salaire, s'il vous plaît. » Vous imaginez la tête du patron? Il va vous répondre, écoutez mon ami, vous allez travailler un mois et puis on verra ce que ça vaut. Puis là, tu auras ton salaire. Travaille d'abord, tu auras ton salaire après. Ou bien alors, vous rencontrez votre voisin, il a une nouvelle voiture et vous lui dites, waouh, où est-ce que tu as trouvé cette belle voiture? Et dis donc, je ne l'ai pas trouvée, j'ai travaillé dur pour me la payer. Ou vous rencontrez le voisin d'en face dans la rue qui vient d'avoir son diplôme à l'université. Et vous lui dites, ah, on t'a donné ton diplôme? Et dis donc, on ne me l'a pas donné, j'ai travaillé pendant des années pour le mériter, ce diplôme. Pas donné, on l'a acheté, on l'a mérité. Et dans le monde où nous sommes, on n'a rien si on ne l'achète pas ou si on ne le mérite pas. Rien, vous le savez aussi bien que moi. Tout se gagne. Et malheureusement, cette idée, cette mentalité, ce fonctionnement qui est celui de notre société a imprégné notre foi et notre manière de percevoir notre relation avec Dieu. Ainsi, nous avons dans le domaine religieux souvent le même comportement. Je fais du bien, je suis un homme de bien, une femme de bien. Donc tout est correct. Et l'on pense que si la somme, le volume du bien qu'on a fait est supérieur au mal qu'on a fait, au jugement dernier, on n'a pas de problème. Dieu sera content avec le bien que j'ai fait parce qu'il y en a beaucoup plus que du mal. Donc quand on aura pesé l'un et pesé l'autre, le bien va dominer tellement que Dieu va me recevoir dans son paradis et on arrange les choses d'une façon fort simple. Donc en réalité, c'est très simple. Je fais du bien, je suis un homme de bien, je fais tout ce que je peux pour bien faire. Et Dieu est parfaitement content avec ça. Si bien qu'en fait, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Puisque le bien que je fais est suffisant pour lui plaire. C'est en tout cas ce que l'on pense. Je n'ai donc pas besoin de la religion. Je n'ai pas besoin de Dieu. Or, c'est vrai, les histoires de la Bible sont intéressantes. Jésus, oui, c'est bien, c'est un homme de bien, mais enfin, je n'en ai pas besoin de plus que ça, puisque tout ce que je fais suffira à contenter Dieu au dernier jour. Jésus, ben oui, mais pas plus que ça. On en entend parler, il a fait beaucoup de bien, c'est un bon exemple, c'est un exemple à suivre, mais enfin, je n'ai pas besoin de lui plus. Que ça, je suis un homme de bien, je suis une femme de bien, je fais du bien. Et c'est ce que Dieu demande. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Vous savez, Dieu a parfois sa manière pour nous ramener à la réalité, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul, pour nous remettre les pieds sur terre. Et je vous propose de regarder ce que les Écritures disent à ce sujet. Regardez avec moi dans le livre des Psaumes, au chapitre 143. Psaume, chapitre 143. Nous lirons un texte dans l'Ancien, un texte dans le Nouveau Testament, pour voir ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Psaume 143, nous lirons dès le début, verset 1. « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Combien ? Aucun. Aucun vivant n'est juste devant toi. Et le Nouveau Testament ne dit pas les choses autrement. Regardez avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, le même auteur que Saul de Tarse, dont nous parlions tout à l'heure, sur le chemin de Damas, un peu plus tard, écrivant à l'Église qui se trouve à Rome, écrit ceci. Romains chapitre 3, verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et un tout petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors ça, c'est mauvaise nouvelle et bonne nouvelle en même temps. Mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que le bien qu'ils font suffit pour les rendre bons aux yeux de Dieu. Et plus on en fait, plus on se sent bien. Mauvaise nouvelle parce que la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas un vivant qui soit juste devant Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous dans le même bateau. Ça veut dire que nous ayons fait beaucoup de bien ou beaucoup de mal, ça ne change rien. Mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que leur bien a suffi à les rendre acceptables aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais la mauvaise nouvelle est encore peut-être pire que cela parce que les Écritures sont claires. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le même apôtre Paul nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ceci veut dire que nous sommes tous condamnés à mort. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent que le volume extraordinaire du bien qu'ils font les rendra acceptables aux yeux de Dieu. Mais il y a là une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire le bien qu'ils voudraient faire. Il y a là une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent incapables de faire le bien qu'ils souhaiteraient accomplir et qui par conséquent ne se sentent pas à la hauteur de ceux qui sont capables de montrer tout le bien qu'ils sont capables de faire. Tous ceux-là, comment est-ce qu'ils s'en sortent alors ? C'est que l'Évangile n'est pas mauvaise nouvelle, l'Évangile est bonne nouvelle. Nous sommes tous dans la même situation. L'Évangile propose un plan de sauvetage pour cette humanité dans laquelle il n'en est pas un seul qui puisse se sauver tout seul. Ce plan de sauvetage qui gravite autour de la personne de Jésus nous amène à reprendre un passage des Écritures que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, il est dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Évangile devient bonne nouvelle parce que nous tous qui sommes tous dans la même situation, tous dans la même situation de pécheurs condamnés à mort, Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que nous mettions toute notre confiance en lui. Et par cette confiance que nous mettons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, il nous donne en échange la vie éternelle. Bonne nouvelle pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire le bien. Bonne nouvelle pour tous ceux qui se rendent compte qu'ils ont le désir, la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent impressionnés par le volume de bonnes œuvres que certains mettent devant eux pour justifier combien ils sont bien et acceptables aux yeux de Dieu. Faux. Le Seigneur nous propose un programme différent parce que nous sommes tous dans la même situation. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, l'apôtre Paul se retrouve en prison pour sa foi. Et devant les événements qui viennent de se passer le jour précédent, le gardien de la prison s'adresse à lui. Et j'aimerais simplement relire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 30, la manière dont Paul répond à cet homme. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 30 dit ceci. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que faut-il que je fasse ?»« Mon cher ami, répond l'apôtre Paul, il n'y a rien à faire. La seule chose que tu puisses faire, c'est croire dans ce que Jésus a fait pour toi et que tu ne peux pas faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce qui me met en ordre avec Dieu, ce n'est pas le volume de bien que j'ai fait, c'est la relation que j'ai établie avec celui qui peut me sauver. Et ça fait toute la différence. Un autre passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, présente cette même vérité dans un contexte différent. Évangile selon Jean, chapitre 6. Et nous lirons le verset 28 et 29. On s'approche de Jésus et on lui pose la question, verset 28, ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Même question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, je suis capable de faire des choses. Et Dieu me répond, « Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que tu donnes ton cœur, ton amour, ton affection et ta confiance dans celui que Dieu a envoyé dans le monde, Jésus-Christ. » À partir de ce moment-là, l'Évangile devient bonne nouvelle parce que nous avons tous essayé de faire ce que nous pensions être bien et nous avons tous échoué d'une manière ou d'une autre. Et même si nous arrivons à accumuler une somme extraordinaire de bonnes actions à nos yeux, ce qu'il veut, c'est notre affection, c'est notre confiance, c'est une relation particulière avec lui. Et c'est là précisément que le baptême prend tout son sens. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16 et au verset 15, le sens du baptême nous est ici présenté d'une façon très claire. Évangile selon Marc, chapitre 16, au verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême ici est expliqué d'une façon simple. Celui qui croit, celui qui fait ce que l'Évangile dit, c'est-à-dire qui reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, qui est baptisé, sera sauvé. Le baptême, c'est finalement le symbole par lequel j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, parce que je me rends bien compte que moi-même et par ma force personnelle, je suis perdu. Le baptême, ce n'est pas pour moi une manière de dire que je suis meilleur que les autres. C'est au contraire une manière de dire qu'au fond de moi-même, je reconnais que je ne suis pas bon, mais que j'ai besoin de la présence du Christ pour me pardonner et pour me changer. Ainsi, nous pouvons reprendre les textes que nous avons lus tout à l'heure, parce que nous les avons lus à moitié. Ce qu'il ne faut jamais faire. Reprenons-les maintenant. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, que nous est-il dit? Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, où nous étions tout à l'heure. Et je vous propose de relire le verset 23 et de continuer sur le verset 24. Romains 3, verset 23, dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous sommes tous perdus, nous sommes tous pécheurs. Et l'Évangile nous dit, c'est pas grave. Vous avez un moyen entre les mains par lequel vous pouvez être sauvés. Et s'il vous plaît, gratuitement. C'est ce que Jésus a fait. Il a payé le prix pour moi. C'est la raison pour laquelle il me propose la vie éternelle, le salut par son nom, en établissant avec lui cette relation de confiance profonde qui est exprimée dans le baptême, justement. Le baptême, c'est pour tous ceux qui reconnaissent que dans la réalité, selon la parole de Dieu, sans Jésus, sont perdus. Un peu plus loin, dans la même épître de Paul, au chapitre 6, au verset 23, il est écrit ce que nous mentionnions tout à l'heure, Romains chapitre 6, verset 23, où il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tout à l'heure, je n'ai lu qu'une partie. L'Évangile est là dans la deuxième partie. Il nous met tous sur un pied d'égalité. Il n'y a pas des grands et des petits. Nous sommes tous pécheurs devant les yeux de Dieu. Va-t-il nous laisser là, comme ça, livrés à nous-mêmes, à vouloir essayer de grimper en faisant toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire pour mériter sa grâce? Dieu nous dit, vous pouvez être sauvés malgré cette situation dramatique. C'est en établissant avec Jésus une relation personnelle qu'il devient votre sauveur. C'est le sens du baptême et c'est exactement ce que nos amis veulent dire ce matin. Ils reconnaissent qu'ils ont un besoin profond d'un sauveur parce qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. Mais il est là, le sauveur. Il est à la disposition. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, je peux aujourd'hui avoir l'assurance de la vie éternelle, bien que la parole de Dieu me dise « nous sommes tous des pécheurs ». Je peux avoir cette assurance qu'après la mort, au retour de Jésus, je peux recevoir cette vie éternelle. En fait, la mort, si elle doit intervenir, n'est jamais qu'une petite parenthèse. Jean écrivait dans sa première épître, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Déjà, maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ceux qui vont être baptisés, la vie éternelle commence. Parce que la mort n'est jamais qu'un petit sommeil en attendant le retour du Christ. Ainsi, le chrétien ne fait pas le bien pour être sauvé. Le chrétien fait le bien parce qu'il est sauvé. Parce que son cœur est débordant de reconnaissance pour Dieu qui en Jésus-Christ lui a offert la vie éternelle gratuitement aujourd'hui. C'est le sens du baptême, c'est le sens du message que nos amis veulent donner en recevant aujourd'hui le baptême par immersion, qui est une image biblique de la mort dans un sens et de la résurrection. C'est la raison pour laquelle on va parler de nouvelle naissance. Alors peut-être que le Seigneur va nous rejoindre sur notre chemin de Damas comme il a rejoint Paul un jour, il y a longtemps. Nous avons peut-être cette idée que nous sommes corrects parce que nous faisons tout le bien que nous pouvons. Et le Seigneur nous propose un moyen d'être sauvés beaucoup plus accessible, beaucoup plus efficace, beaucoup plus vrai. Celui qui consiste à reconnaître que nous sommes perdus et que Jésus-Christ peut nous sauver grâce à son sacrifice pour nous. Alors peut-être que nous sommes sur un chemin que nous pensons être vrai. Ce que l'Évangile nous propose aujourd'hui, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. C'est ce que Jésus disait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui le reçoivent comme tel sont sur le bon chemin. Ils reçoivent la vérité de la parole et ils reçoivent en Jésus-Christ la vie éternelle. Le plan de Dieu est extraordinaire. Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et figurez-vous, c'est un don gratuit qui nous est offert par Jésus-Christ. Amen.